Vous écoutez, on lit pour vous.
Convertir des bureaux en logements, un succès calgarien encore peu suivi au Canada. Un texte de Tiffany Roquette, paru le 24 septembre 2024 sur Ici Alberta. Après avoir déjà dépensé 153 millions de dollars, Calgary a relancé le financement pour susciter la conversion de tours de bureaux en immeubles de logements. Ce programme d'incitatif est vanté comme un modèle au Canada et pourtant, peu de villes ont copié cette approche. Le PDG du groupe immobilier Astra Group et People First Developments, Maxime Olchevski, est un partisan de la première heure du programme d'incitatif de Calgary. Non seulement la ville accélère-t-elle les approbations réglementaires, mais elle subventionne jusqu'à 75 $ du pied carré converti. Le groupe immobilier a été le premier à convertir un immeuble dans le centre-ville de Calgary en logement depuis le début du programme en 2021. Actuellement, le chantier bat son plein à l'intérieur d'une deuxième tour. La fierté se lit sur le visage de Maxime Olchevski lorsqu'il décrit la façon dont des appartements de 2 et 3 chambres vont être créés dans les étages de l'immeuble Petrofina. Citation : C'est une des manières les plus rapides d'offrir des logements. Le bâtiment est déjà là, il suffit de le rénover. Fin de citation, explique-t-il. Il cite en exemple son premier succès, le Cornerstone, qui a été converti en 18 mois. Citation : Dans certaines villes, c'est le temps que ça prend pour juste obtenir les permis. Fin de citation, dit-il à la plaisanterie. L'immeuble qui était vide depuis 10 ans abrite maintenant 112 appartements. Citation : Quand on se tient à l'extérieur de l'immeuble, on peut ressentir le dynamisme. Les gens vont et viennent. Un seul projet a transformé tout ce coin de quartier. Fin de citation, affirme Maxime Olchevski. Le Petrofina était aux 2/3 vide. L'été prochain, il abritera une 100aine d'appartements à louer, dont certains avec un loyer abordable. Afflux de projets. Maxime Olchevski n'est pas le seul convaincu. À Calgary, l'appétit des promoteurs immobiliers pour ce genre de projet a été tel que la ville a dû suspendre son programme d'incitatif pendant presque 1 an. Citation : Nous n'étions pas sûrs du nombre de demandes et de l'intérêt, et ça a été impressionnant. Fin de citation, raconte Nathalie Marchu, gestionnaire du développement et de la stratégie pour le centre-ville à la ville de Calgary. 11 projets de conversion ont été approuvés, ce qui enlèvera près de 146 000 mètres carrés d'espace de bureaux. Les demandes de subventions sont à nouveau acceptées avec une enveloppe de 52,5 millions de dollars provenant du Fonds pour accélérer la construction de logements du fédéral. Citation : Nous avons reçu des appels du monde entier au sujet de ce programme. Fin de citation, se félicite Nathalie Marchu. Des études, mais pas de subventions directes. Si le programme suscite de la curiosité, il n'a pas pour l'instant été copié dans les grandes villes canadiennes. Ni Toronto, ni Montréal, ni Winnipeg n'ont mis en place d'incitatifs financiers à la conversion malgré des taux d'inoccupation d'espaces de bureaux qui flirtent avec les 20 %. Vancouver examine des changements réglementaires pour la conversion en chambre d'hôtel. Ottawa et Halifax ont réduit les démarches administratives pour faciliter la conversion de bureaux vides en logements. Les conversions sont menées de manière privée, sans subvention municipale. Citation : Les autres marchés subissent un ralentissement et un accroissement de leur taux d'inoccupation, mais pas aussi fortement et depuis aussi longtemps que Calgary. Fin de citation, explique Walsh Manas de la firme Avison Young. En Alberta, la désertion du centre-ville ne date pas de la pandémie, mais de la chute des prix du pétrole en 2014. Au point le plus bas, un espace de bureau sur 3 à Calgary était vide. Frilosité fiscale. Citation : Il y a aussi le sentiment qu'il faut attendre et voir comment le retour au travail va se passer. Nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation où il y a trop de conversions et pas assez d'espace de bureau. Fin de citation, ajoute Jennifer Barrett, directrice de l'Institut urbain du Canada. Les difficultés financières des municipalités jouent aussi un rôle, selon elle. À Edmonton, par exemple, les conseillers municipaux ont rejeté une proposition de programme d'incitatif, faute d'argent disponible. Avec un taux d'inoccupation persistant, la capitale albertaine aurait pourtant été une bonne candidate, selon Walshmanas. Pas encore de victoire à Calgary non plus. Tout n'est cependant pas parfait du côté de Calgary. 6 projets de conversion n'ont pas reçu les subventions municipales pour diverses raisons, comme l'explique Nathalie Marchu. Avec 11 projets sur les rails, la ville est encore loin d'atteindre son objectif de réduction de 557 000 m², alors que le financement disponible pour cette nouvelle ronde représente seulement un tiers de l'argent engagé jusqu'à maintenant. Citation. « Nous pourrons évaluer le succès du programme quand tous les projets seront terminés », fin de citation, explique Walshmanas. Le promoteur Maxime Olchevski n'en demeure pas moins convaincu que celui-ci a un bel avenir. Citation. « La question de l'abordabilité du logement va continuer à être un problème à Calgary et dans plusieurs villes canadiennes. La seule façon de le résoudre est d'ajouter des logements, et cela veut dire une collaboration entre le secteur privé et le secteur public », fin de citation, affirme-t-il. Son groupe a déjà d'autres projets en tête à soumettre à la ville. C'était « Convertir des bureaux en logements, un succès calgarien encore peu suivi au Canada », un texte de Tiffany Roquette, paru le 24 septembre 2024 sur Ici Alberta.
Que faire pour aider à sa rémission du cancer? Un texte de Catherine Enfield, paru le 6 octobre 2024 dans La Presse. Question d'un lecteur anonyme. Dernièrement, mon frère a appris que le cancer colorectal qu'on lui a diagnostiqué l'an dernier faisait une récidive locale. Que peut-il faire, concrètement, pour aider à sa rémission? Des aliments à manger, à éviter? Par ailleurs, y a-t-il possibilité de suivre un traitement d'immunothérapie? La question de notre lecteur est spécifique au vécu de son frère, mais cette quête de solutions concrètes après un diagnostic de cancer est universelle. Pour y répondre, nous avons donc réuni 2 chirurgiens qui s'intéressent à ces questions. La docteure Carole Richard et le docteur Roy Adjar. Ce genre de questions rend le patient un peu plus proactif. Et on aime la proactivité, dit d'emblée la docteure Carole Richard, chef du service de chirurgie digestive au CHUM. Première chose, dit-elle, l'exercice. Des études européennes ont démontré que les patients qui font de l'exercice cardiovasculaire au moins 30 minutes par jour, 4 ou 5 fois par semaine, répondent en général mieux au traitement en oncologie. Mais il ne faut surtout pas culpabiliser les patients qui n'ont pas la force d'en faire, souligne la docteure Richard. Deuxième point, éviter de fumer. Et troisième point, maintenir un poids santé pour mieux tolérer les traitements. Ce qui nous amène au dernier point, l'alimentation. En oncologie colorectale, on surveille le niveau de vitamine D des patients et on conseille de limiter l'apport en viande rouge et en viande transformée. Le reste des recommandations est d'ordre général. Une alimentation saine, riche en fruits et légumes, en protéines et en fibres, résume Carole Richard. On aimerait donner une recette spécifique au frère de votre lecteur, dit-elle, et de lui dire de manger telle ou telle chose et de ne pas manger telle autre chose. Ce serait notre rêve, mais on n'a pas les données probantes pour donner des recommandations aussi précises. Tranquillement, on y travaille. On travaille fort là-dessus à Montréal et on espère avoir une réponse un jour, ajoute le docteur Roy Adjar, qui reviendra au CHUM après sa formation surspécialisée en chirurgie colorectale. Fibres et microbiome. Carole Richard, Roy Adjar et leur collègue immunologiste Manuela Santos se sont intéressés au rôle protecteur que pourraient avoir les fibres alimentaires dans la guérison du cancer colorectal et même, peut-être, dans la récidive. Dans les populations qui consomment suffisamment de fibres, on recense moins de cas de cancer colorectal. Des études l'ont démontré, mais une fois le cancer diagnostiqué, est-ce que consommer des fibres va aider? C'était le sujet de nos recherches au CHUM, explique Roy Adger. Leur objectif? Déterminer si consommer plus de fibres, d'une part, pourrait diminuer les complications post-opératoires et améliorer la guérison et, d'autre part, avoir un effet bénéfique sur le cancer et la récidive. Leurs résultats ont été publiés dans les revues scientifiques GUT et Clinical Cancer Research. Le microbiome, explique Roy Hodger, serait au cœur du mécanisme. Quand les bactéries fermentent certains types de fibres, elles vont produire un produit anticancérigène dans l'intestin qui s'appelle le butyrate. L'autre effet, c'est que ça consolide la barrière intestinale, donc ça peut augmenter la couche de mucus et donc favoriser une guérison plus rapide. Ces effets ont été démontrés dans des modèles animaux et cellulaires seulement, précise le Dr. Roy Adger, et non pas chez des patients. Les connaissances actuelles ne permettent pas de recommander certains types de fibres en particulier. Pour le moment, je me limiterai à dire d'avoir une alimentation variée selon les recommandations de 25 à 38 grammes de fibres par jour, indique le Dr. Adger. Attention, les patients ne doivent pas se bourrer de fibres, avise la Dr. Carole Richard. Un abus de fibres pourrait même nuire, notamment chez les patients qui subissent déjà des dérangements intestinaux en raison de la chimiothérapie. La modération a meilleur goût, rappelle-t-elle. Immunothérapie. La modification du microbiome demeure une avenue de recherche en plein essor, pour le cancer colorectal, mais aussi pour d'autres types de cancers comme celui des poumons et le mélanome. Au CHUM, une équipe a lancé cette année un essai clinique assez particulier. Des patients atteints de mélanome recevront des pilules contenant du microbiote fécal de donneurs sains pour voir si cela leur permettra de mieux répondre au traitement d'immunothérapie. Notre lecteur se demandait d'ailleurs si son frère pourrait suivre des traitements d'immunothérapie, ces traitements qui aident le système immunitaire à trouver et détruire les cellules cancéreuses et qui ont révolutionné la prise en charge de certains cancers. À l'heure actuelle, seule une sous-catégorie très petite de patients atteints de cancer colorectal répond bien à l'immunothérapie, indique la Dr. Richard. Dans un avenir proche, Roy Adger prévoit d'explorer le sujet en comparant le microbiome des patients de cette sous-catégorie au microbiome des autres patients pour trouver des pistes qui permettraient de maximiser la réponse aux thérapies. Le rêve, ce serait qu'on puisse un jour analyser le microbiote de quelqu'un, puis lui conseiller de modifier telle ou telle chose parce qu'il a besoin de telle ou telle bactérie, illustre Carole Richard. On pourrait dire à telle personne, pour vous, telle intervention sera bénéfique, mais pour vous, c'est une autre intervention, résume Roy Adger. Le spectre de la médecine actuelle est en train de changer vers de la médecine plus personnalisée. Et c'est intéressant. C'était « Que faire pour aider à sa rémission du cancer ?» un texte de Catherine Enfield, paru le 6 octobre 2024 dans La Presse.
Comment bien préparer son véhicule pour l'hiver? Un texte de Charles René, paru le 15 octobre 2024 dans La Presse. Les arbres se dévêtent, les journées raccourcissent, les nuits se font plus fraîches. L'automne nous envoie une multitude de signaux indiquant que le souffle froid de l'hiver s'approche doucement. Éprouvante pour la mécanique, cette saison nécessite un certain niveau de préparation. Survol des éléments principaux auxquels il faut s'attarder. Les pneus. Les pneus sont le noyau central de la préparation d'un véhicule à la saison froide. Au-delà de l'inspection de leur usure et du bon équilibrage des roues, il faut évidemment faire un bon choix en fonction des conditions climatiques. Certains pneus sont plus à l'aise dans des conditions glacées, alors que d'autres performent mieux dans la neige. L'arrivée plutôt récente de pneumatiques 4 saisons peut également nourrir votre réflexion. Pour optimiser la performance des pneus d'hiver et allonger leur durée de vie, ne pas négliger la pression d'air, laquelle baisse par temps froid. Au Québec, votre véhicule doit être équipé de pneus d'hiver du 1er décembre au 15 mars. Prenez rapidement votre rendez-vous chez votre garagiste. La vidange d'huile. Une vidange d'huile est aussi de mise avant la saison froide afin de s'assurer que cet important fluide protège les pièces internes de votre moteur, particulièrement au démarrage, lorsqu'il n'est pas entièrement lubrifié. Certains constructeurs vont même jusqu'à recommander un grade de viscosité plus bas que la normale pour affronter les journées glaciales. Si votre portefeuille vous le permet, une huile à moteur entièrement synthétique, à une viscosité plus stable en hiver, offrant ainsi une meilleure protection, qu'importe les conditions. N'oubliez toutefois pas de respecter les intervalles de vidange d'huile recommandés par le constructeur de votre véhicule. Ce type d'huile ne permet pas de parcourir plus de kilomètres. Les balais à essuie-glace et le liquide lave-glace. Malgré la kyrielle de béquilles électroniques dont sont équipés les véhicules modernes, rien ne peut remplacer une bonne visibilité extérieure. Jouant un rôle essentiel à cet égard, les balais à essuie-glace nécessitent une attention particulière avant l'hiver. S'ils font déjà des stries sur votre pare-brise, il est sans doute temps de les remplacer avant de devoir le faire à moins 30 degrés Celsius, les doigts gelés. Des modèles sans cadre exposés sont à privilégier pour éviter la formation de glace qui peut affecter leur efficacité. N'oubliez pas de vérifier également si le liquide lave-glace présent dans votre réservoir est conçu pour les températures froides. Cela pourrait vous éviter bien des maux de tête. L'inspection complète. Une inspection complète de votre véhicule est recommandée pour vérifier si celui-ci présente des problèmes mécaniques avant d'affronter l'hiver. Votre mécanicien pourra également déceler d'avance si votre liquide de refroidissement nécessite un remplacement ou que les huiles de transmission ou de différentiel sont à la fin de leur durée de vie. Ces organes sont particulièrement sollicités lorsque le niveau d'adhérence baisse lors de la saison froide. L'examen des freins est parallèlement incontournable, surtout pour les véhicules électriques qui les sollicitent moins, entraînant une corrosion accélérée de composants. Une bonne inspection s'attardera aussi aux pièces de suspension qui encaissent de nombreux chocs en raison de la dégradation de la chaussée en hiver. Finalement, l'état de la batterie exige tout autant une attention pour s'assurer d'une bonne alimentation en électricité, surtout en démarrage à froid. La trousse de secours. En plus du nécessaire balai à neige, il est tout aussi conseillé de confectionner une trousse de sécurité que l'on traîne à bord de son véhicule. Couverture bien épaisse, lampes de poche, pansements, gants, voire collations sèches peuvent la composer pour vous aider à affronter les écueils de la saison. Une petite pelle et des plaques antidérapantes peuvent également la compléter, en plus des nécessaires câbles de démarrage qui vous seront d'une aide précieuse si votre batterie se fait moins coopérante. Un dispositif lumineux est un autre élément à ne pas négliger, question de vous faire visible si jamais vous tombez en panne sur le bas-côté d'une autoroute. Les tapis. Un bon tapis d'hiver est aussi un achat à considérer pour bien protéger la moquette de votre véhicule en limitant l'accumulation d'humidité et de calcium dans celle-ci. Prenez le temps d'en faire le magasinage, car certains tapis dits à usage universel ne sont pas, par défaut, adaptés à tous les véhicules en raison des nombreuses configurations de pédales qui prévalent dans l'industrie. Certains fabricants de tapis offrent des produits adaptés sur mesure à chaque modèle. Ils sont plus coûteux, mais offrent une meilleure protection et dureront sans doute la vie de votre véhicule. C'était « Comment bien préparer son véhicule pour l'hiver », un texte de Charles René, paru le 15 octobre 2024 dans la presse.
Alex Francoeur et la Révolution de décembre, signé Québecissime. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 28 octobre 2024 dans le magazine Fugue. Grosse année pour Alex Francoeur. En plus de participer à la saison des Étoiles de Révolution avec son partenaire Alex Carlos, il a reçu le mandat de renouveler les chorégraphies du spectacle Décembre de Québecissime. Ah oui, il a également convaincu Jeremy Hudson, le chorégraphe de Taylor Swift, de participer à D-Jam, la convention qu'il organise en novembre à Saint-Constant. Alex et Alex sont de retour à Révolution. Pourquoi avez-vous accepté cette invitation? Alex Francoeur. On s'est beaucoup questionné avant d'accepter. Ce genre de contexte arrive rarement au Québec. 5 ans après notre saison régulière, on se sentait ailleurs. On a pris une belle maturité de partenariat. On a sauté dans l'aventure en se disant « advienne que pourra ». On n'est pas là pour gagner à tout prix ni pour laisser une nouvelle marque dans l'émission. C'est un cadeau qu'on s'offrait. En quoi avez-vous évolué? Quand on a fait la saison 2, notre partenariat était nouveau. On avait une belle complicité, mais on s'ajustait constamment jusqu'à ce que les choses fonctionnent. Aujourd'hui, il y a une écoute inégalée entre nous. Je peux faire une routine complète les yeux fermés parce que j'ai une confiance aveugle envers lui. Ça nous a permis d'aller plus loin dans la complexité de nos chorégraphies, les lifts et le partenariat, car on ne se questionne plus sur les réactions de l'autre. En quoi est-ce différent de compétitionner seulement contre des étoiles? Cette saison-ci, je sentais dans la salle des danseurs que tout le monde avait quelque chose à perdre. Ce sentiment apporte du positif et du négatif. L'ego des artistes embarque. Sachant qu'on est déjà rendu à un certain niveau dans nos carrières, on ne veut pas perdre. Mais en même temps, ça nous a poussé à aller plus loin, car les étoiles à nos côtés vont aussi plus loin. Et comme on se connaît tous, on connaît les forces des autres. Il y a eu beaucoup de blessures durant la saison, car on était tous en mode olympique. Décris-moi le défi de danser avec un corps qui n'est plus une petite jeunesse. J'avais arrêté de performer à ce niveau-là, car je travaillais davantage en tant que chorégraphe. J'ai donc dû faire une remise en forme extrêmement grande pour retrouver ce niveau. Pendant 9 mois, il n'y avait plus d'alcool ni de sortie. Je me concentrais sur l'entraînement pour retrouver mon mode de vie d'athlète. C'était très difficile, car ça ne revient pas aussi vite dans la trentaine. Les bobos restent plus longtemps. Au final, je suis sorti de la première étape de la saison en réalisant que j'étais encore capable et que je pourrais continuer la danse encore longtemps si je prenais soin de mon corps. Quels ont été tes projets les plus marquants depuis ta sortie de ta saison de Révolution? Le projet qui a tout changé pour moi, c'est de signer les chorégraphies dans Direct de l'Univers. Quand je suis sorti de Révolution, l'équipe m'a offert un poste de chorégraphe, alors que je n'avais presque jamais fait ça de ma vie. À travers le temps, j'ai rencontré beaucoup d'artistes et j'ai développé ma signature chorégraphique. Dernièrement, j'ai chorégraphié la grosse série américaine Ghost, qui était tournée à Montréal. Ça m'a fait comprendre que je pouvais accomplir ce que je voulais. J'ai aussi adoré travailler sur la comédie musicale d'Élie Saint-Cyr, une création 100% québécoise. J'ai également dansé sur des bye-bye. J'ai chorégraphié les deux fêtes nationales sur les plaines et à Montréal. J'ai travaillé avec Laurence Nerbonne, Saramé, Fouki. J'ai collaboré aux trois dernières années de Juste pour rire. Et je m'occupe de Mammouth depuis 4 ans à Télé-Québec. Tu signes les chorégraphies de la prochaine édition de décembre. Qu'est-ce que ça représente? J'ai les étoiles dans les yeux quand on m'en parle. C'est un des premiers spectacles que j'ai vus. Une danseuse m'avait amené en coulisses quand j'étais petit gars. Je voyais ça si gros. 20 ans plus tard, on me donne carte blanche pour remonter toutes les chorégraphies des danseurs. C'est une charge de travail qui m'empêche de dormir la nuit. Je sens une grande pression d'accomplir quelque chose sur une tradition québécoise bien ancrée dans notre culture. Beaucoup de gens vont voir mon travail. Je ne veux pas manquer ma shot. Cela dit, mon travail doit s'inscrire dans la mise en scène qui existe déjà. À quel point le temps des fêtes est-il une période qui t'inspire? Ça m'égaye beaucoup en ce moment. On fait cette entrevue le 8 octobre et les chansons de Noël jouent déjà dans mon salon. Ce qui est le fun avec décembre, c'est que les danseurs sont des personnages. Ils sont des lutins, des fées et des villageois, alors que les chorégraphies doivent nourrir l'objectif des personnages à travers le mouvement. En ce moment, je baigne dans l'imaginaire du temps des fêtes. Depuis des années, tu organises D-Jam, la convention, qui offre des formations et des ateliers pour les danseurs. Parle-moi de ça. C'est ma façon de redonner à la communauté et de faire quelque chose de plus grand que de simplement réaliser mes rêves. J'avais envie qu'on enlève l'aspect compétitif de l'art. Alors, j'ai créé un lieu de rassemblement pour échanger sur la danse et pour élever la prochaine génération, afin qu'elle ait les outils pour faire de la danse un métier, un mode de vie ou une passion. Avec les années, j'ai vécu à Toronto, New York et Los Angeles. Ça m'a permis d'avoir beaucoup de contacts dans le milieu. J'aime les réunir pour triper avec eux au Québec. On a une convention sur la rive sud de Montréal, une sur la rive sud de Québec, et on en développe une troisième. Cette année, on fait venir Jeremy Hudson, le chorégraphe associé de Taylor Swift. C'est plus grand que nature. Je lui ai écrit pour présenter notre mission et dès mon premier courriel, il a accepté. C'était Alex Francoeur et la Révolution de décembre signé Québécissime. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 28 octobre 2024 dans le magazine Fugue.